Au divin maître, vous êtes un atroce cochon. George Sand.
Mille ans d'histoire. Il s'appelait Gargantua, Pantagruel, Grand Gousier, Gargamel, Picrocole ou Panurge, tellement paillards et jouisseurs qu'on comprend mal comment un moine, médecin puis curé de Meudon a pu inventer ces personnages qui font aujourd'hui partie des archétypes les plus connus de la littérature, plus connus sans doute que celui qui les a imaginés, Rabelais, dont on sait peu de choses, sinon qu'il est né au moment où l'on découvrait l'imprimerie, le Nouveau Monde, et ce rire rabelaisien par lequel, il y a 500 ans, les hommes sont entrés dans la Renaissance en lisant l'œuvre la plus originale de son temps.
Amis lecteurs qui se livrent, lisez, dépouillez-vous de toute affectation et, le lisant, ne vous scandalisez. Il ne contient ni mal ni infection. Vrai est qu'ici, peu de perfection vous apprendrait, sinon en cas de rire. Autre argument, mon cœur ne peut élire, voyant le deuil qui vous mine et consomme. Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme.
Jean-Yves Pouilloux, bonjour.
Bonjour.
Alors, le rire est le propre de l'homme, c'est une des formules les plus connues de Rabelais, hein, qui en a commis beaucoup, fait ce que voudra, la substantifique moelle. Alors, rire, c'est aussi le sous-titre d'un livre que vous avez écrit sur Rabelais. Est-ce qu'on peut limiter l'œuvre de Rabelais à la volonté de faire rire seulement ?
Certainement pas, mais c'est le fond, c'est la base continue, je dirais, ce qui accompagne l'ensemble de l'œuvre. Effectivement, si on réduit ça à rire au sens de comique, etc., c'est très réducteur, c'est très schématisé les choses. Rabelais, c'est un monde. Rabelais, c'est une encyclopédie. Et si le rire accompagne la plupart de ses développements, la plupart de, enfin, tous ses livres, en fait, dans ses livres, il y a tout.
C'est le prétexte aussi, peut-être, et le moyen pour lui de parler de choses très sérieuses et
extrêmement,
disons,
sérieux.
assez délicate, effectivement, abordée. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les personnages de Rabelais et son œuvre sont finalement beaucoup plus connus que lui, parce qu'on ignore au fond même la date et le lieu exact où il est né.
On suppose, étant donné qu'on sait qu'il est mort en 1553 à Paris, dans la paroisse Saint-Paul dans le Marais, à l'âge de 70 ans. Donc on suppose qu'il est né 70 ans plus tôt. Mais pendant très longtemps, on l'a fait naître en 1492 ou 93, ce qui coïncidait d'ailleurs avec la découverte de l'Amérique, ce qui était pas mal. Mais on n'a pas de témoignages, on n'a pas d'archives.
Alors, beaucoup de surprises, hein. Il est vraiment surprenant. D'abord, c'est un des auteurs, on l'a dit, on l'entendra, un des auteurs les plus truculents de son temps, les plus paillards, alors qu'il a, pendant la plupart du temps dans sa vie, il a été moine.
Alors, il a été moine franciscain, bénédictin.
Les franciscains, en plus, c'était pas des drôles, hein.
Non, c'était même, enfin, je veux pas fâcher les franciscains, mais c'était plutôt des tristes à l'époque. Et en plus de ça, très résolument hostile aux idées nouvelles. Et c'était plutôt, on dirait aujourd'hui, des conservateurs. Les bénédictins étaient un peu plus ouverts et, par exemple, acceptaient beaucoup plus facilement qu'on apprenne le grec, parce que le grec était une sorte de...
Oui, c'est pas une idée nouvelle, c'est pas une langue nouvelle, mais c'est une idée nouvelle, au fond, que de parler le grec. C'est important.
Tout à fait.
C'est un helléniste, d'abord, effectivement.
Tout à fait.
Rabelais.
Tout à fait. Pendant toute la tradition médiévale, quand même, les manuscrits étaient conservés, les manuscrits grecs étaient conservés dans les monastères, mais il y avait des petites étiquettes dessus qui disaient Graecum est, c'est du grec, non legitur, ça ne se lit pas.
Pourquoi?
Je ne sais pas exactement, parce que je pense que ça vient en partie de la séparation entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire entre Rome et Constantinople, enfin Byzance.
Puis les auteurs grecs étaient des païens, hein, c'est peut-être ça aussi.
Ah, les auteurs latins n'étaient pas très très catholiques non plus.
Alors, on arrive, il vieillit dans ses monastères, on arrive en 1530, là il a quitté l'habit monastique, mais il n'a toujours rien écrit, et il ne se met pas à écrire tout de suite, il est aussi médecin.
Alors, bon, on ne sait pas. En fait, il a probablement fait le tour de France des universités, comme on faisait un peu classiquement, c'est-à-dire en allant apprendre un peu de droit à Orléans, etc., et en apprenant un peu de médecine à Toulouse, où il a certainement appris du droit, parce qu'on en a des traces dans ses livres, et surtout à Montpellier, où il a fait des études de médecine.
Très célèbre faculté de l'époque, oui.
C'était la plus grande faculté de médecine en France. La médecine, il faut bien le concevoir comme, en fait, un apprentissage des textes des médecins anciens. Mmh. C'est-à-dire, c'était la lecture et le commentaire de Hippocrate, de Galien, etc. Beaucoup plus que la pratique thérapeutique, on pourrait dire.
Alors, la pratique, il va quand même la pratiquer, si je puis dire. Il va à Lyon. Alors là, c'est une ville d'imprimeurs. Et c'est là qu'effectivement, mais alors là, c'est selon la date de naissance, entre 38 et 49 ans, il commence à écrire son premier roman, qui est Pantagruel.
Exactement. Alors, c'est une ville qui a un statut très particulier, parce que c'est une ville qui n'est pas exactement en France, puisqu'elle est au carrefour de l'Italie. Mm-hmm. C'est tout près de la Savoie, et c'est un lieu de passage, d'échange extrêmement important, un lieu où la culture renaissante italienne, par où la culture renaissante italienne entre en France, et c'est une ville extrêmement cultivée. Il y a, comme vous dites, beaucoup d'imprimeurs. Mmh. Et c'est là qu'il commence à publier un certain nombre de textes, certains textes très érudits, et d'autres textes qui reprennent le Pantagruel, qui reprend une tradition médiévale. Tout à fait. Il y avait les grandes chroniques, c'était des livres populaires.
C'est une farce, hein. C'est
une farce.
C'était un livre destiné au grand public, mais où il dit tant de choses qu'il l'écrit sous un pseudonyme, hein, qui était l'anagramme de son nom, Alcofribas Nazier.
Exactement, ah. Oui. Oui, parce que c'était pas tout à fait à la hauteur de la dignité d'un médecin d'écrire des plaisanteries comme ça.
Eh bien, effectivement, on va en avoir quelques échantillons avec la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, quelques extraits de Pantagruel. Donc, c'est par un véritable boniment de foi, je dirais, que Rabelais, dans son prologue, vante les vertus de son livre. « Trouvez-moi un livre, en quelques langues, en quelques facultés et sciences que ce soit, qui ait telles vertus, propriétés et prérogatives, et je paierai Chopine de tripes. » Puis Rabelais s'adresse à vous, chers auditeurs, qui auriez l'outrecuidance de ne pas croire à l'histoire de Pantagruel. Que le feu Saint-Antoine vous arde, le mal de terre vous vire, le Molubec vous trousse, la Caquezangue vous vienne, puissiez-vous tomber en soufre, en feu et en abîme, en cas que vous ne croyez fermement tout ce que je vous conterai en cette présente chronique. Alors Rabelais commence par l'histoire des ancêtres de Pantagruel qui, un beau jour, mangèrent un peu trop de nèfles. Et oui, des nèfles. À tous, écrit Rabelais, survint au corps une enflure très horrible. Certains enflent par le ventre, les autres enflent en longueur par le membre, en sorte qu'ils l'avaient merveilleusement long, grand, gras, gros, vert et dressé comme la crête d'un coq. D'autres croissaient en matière de couilles, à d'autres tant croissait le nez qu'il semblait la flûte d'un alambic. Les autres croissaient en longueur du corps, et de cela sont venus les géants.
Eh oui, Pantagruel, Gargantua étaient des géants.
Et voilà, pour résumer Rabelais, Pantagruel est leur lointain mais direct descendant, et la naissance de Pantagruel, vous allez voir, c'est quelque chose. Alors que sa mère Badebec l'enfantait, sortirent, premier de son ventre, 68 muletiers, après lesquels sortirent 9 dromadaires, chargés de jambon et langue de bœuf fumée, 7 chameaux chargés d'anguillettes, puis 25 chartés de poireaux, ail et oignons, ce qui épouvanta les sages-femmes. Et comme elle caquetait de ses menus propos, voici sorti Pantagruel, tout velu comme un ours. Il est né à tout le poil, dit l'une d'elles, il fera chose merveilleuse. Alors, parmi les choses merveilleuses, la mère meurt en couche, hein, pas très étonnant vu tout ce qui sort de son ventre, mais l'enfant, lui, en effet, se porte très très bien. Un jour, qu'on le voulait faire téter une vache, il se défit des liens qui le tenaient au berceau et prit ladite vache par-dessous le jarret et lui mangea les 2 tétins et la moitié du ventre avec le foie et les rognons. Et le jarret le mangeait très bien comme vous feriez d'une saucisse. Et de la même manière que Pantagruel mange et boit, chie, pète et pisse, de la même manière il va aimer la vie, et oui, l'amour, et s'instruire en langue, arts libéraux, droit et sciences. Car, nous dit Rabelais, il avait l'entendement à double repli et capacité de mémoire à la mesure de 12 outres et tonneaux d'huile d'olive.
Jean-Yves Pouilloux, c'est une imagination folle. Rabelais, c'est aussi un langage extraordinaire.
Oui, on peut pas savoir lequel des deux est le plus fou. L'imagination à proprement parler, si vous voulez, du point de vue des éléments, des thèmes, n'appartient pas à Rabelais seulement. C'est-à-dire qu'il a repris une tradition, il a ramassé des choses qui couraient un peu dans les livres qu'on lisait au moment des... Les bonimenteurs lisaient ça dans les foires.
Pourquoi mettre en scène des géants qui dévorent des vaches entières, des litres, des hectolitres, des tonnes de lait, de viande? Enfin, c'est étonnant, ça.
C'est pas un mauvais moyen narratif. Ça donne énormément de possibilités. Ça peut faire une parodie de roman de chevalerie, parce qu'il va arriver, il va battre tout le monde, etc., etc. Donc c'est un argument, je dirais, littéraire, beaucoup plus qu'une invention propre de Rabelais. Ce qui est de Rabelais, proprement, c'est la langue. Celle-là, elle est tout à fait extraordinaire. C'est certainement la langue la plus riche qu'on ait jamais écrit en français, et probablement qu'on n'écrira jamais. Et c'est une langue qui contient absolument tous les registres. Ça va depuis le plus grossier jusqu'au plus raffiné, depuis le plus populaire jusqu'au plus savant. Et c'est une langue qui a en même temps... C'est Rabelais qui crée la langue française. C'est lui qui... Pour la première
et même
fois.
Le roman moderne, au fond.
Ah, c'est le premier roman moderne, c'est ce que dit Raymond Queneau, c'est ce que dit Flaubert aussi de Rabelais. Et c'est La Fontaine à laquelle tous se sont abreuvés pendant toute l'histoire de la littérature.
Et un succès immédiat.
Succès immédiat.
C'est 1532, la publication de Pantagruel, et tout de suite, c'est un succès énorme, malgré la censure immédiate aussi de la Sorbonne, ce que Rabelais appelait les Sorbonnagres, qui n'appréciaient guère, évidemment, la façon dont Rabelais brocardait la religion.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui François Rabelais.
Et c'était l'ensemble Clément Jeannequin interprétant Nous sommes de l'ordre de Saint-Babouin, qui est un ordre d'ailleurs qui a réellement existé sous Charles VI, une chanson donc contemporaine de Rabelais, d'une œuvre difficile à décrypter pour en tirer l'essentiel. C'est ce à quoi nous invite Rabelais dans le prologue très célèbre de son deuxième roman, Gargantua, lu par Philippe Noiret.
Beuveur très illustre, et vous vérolé très précieux, à vous et non à autre est dédiée cette vie trésorifique du grand Gargantua. Vîtes-vous jamais un chien rencontrant quelque os à moelle? S'il avait vu, vous avez pu noter de quelle dévotion il le guette, de quelle prudence il l'entame, de quelle diligence il le suce. À son exemple, il vous convient d'être sage pour fleurer, sentir et estimer ce beau livre de haute Grèce. Puis, par curieuses leçons et méditations fréquentes, en rompre l'os et en sucer la substantifique moelle.
Alors Jean-Yves Pouilloux, voilà encore une autre formule bien connue. Qu'est-ce que c'est que la substantifique moelle? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'œuvre de Rabelais, autrement dit?
C'est très embarrassant, votre question. Si je suis dans une tradition bien pensante, disons humaniste, je vais dire, il y a un contenu moral, philosophique, métaphysique, religieux, qui est dissimulé sous des blagues, sous des propos robustes, etc., etc. Et ça a été une interprétation et une lecture de Rabelais qui a été très très longtemps soutenue, et qui l'est encore. Et puis, il y a une deuxième interprétation, une deuxième manière de prendre cela, c'est que, en fait, la substantifique moelle, c'est Elle n'est pas exprimée par une formule. Elle n'est pas contenue dans une phrase. La substantifique moelle, c'est l'exercice même de la lecture, c'est l'exercice même de la réflexion.
Oui, mais dans le cas de Rabelais, malgré les apparences, c'était, disait Michel Butor, une des plus difficiles, une des œuvres les plus difficiles à la littérature française. Hein. C'est vrai qu'il faut la décrypter.
Certainement.
Et
certainement.
Pas seulement à cause de la langue,
bien
qui
sûr.
Est une langue ancienne.
Bien sûr, la langue est un obstacle, c'est évident. Il est évident que nous avons perdu le contact avec la langue agricole, enfin si j'ose dire, la langue paysanne, que Rabelais utilise énormément d'expressions qui sont des expressions en usage dans les campagnes autrefois. Ce sont des expressions qu'on entend au Québec, qu'on entend en français canadien, et qu'on entend pratiquement plus en français de France, comme ils disent. Bon, ça c'est un obstacle. Le deuxième obstacle, c'est que Rabelais avait une connaissance extraordinaire de pratiquement tout le savoir de l'Antiquité.
Et de son époque aussi, parce que c'est quand même une réflexion sur le présent de Rabelais. Par exemple, bon, Gargantua, c'est le père de Pantagruel, l'œuvre vient après Pantagruel, mais c'est en fait Gargantua, c'est son père, dont le père de Gargantua, était lui-même Grand Gousier, qui se battait contre Picrocole. Picrocole, on dit que c'est Charles Quint, c'est ce que vous dites dans votre livre, et que au fond, Picrocole a incarné la guerre de conquête contre laquelle Rabelais s'insurgeait, pour au contraire sanctifier la guerre de défensive menée par le père de Gargantua, menée par Grand Gousier.
Tout à fait. Et c'est une intervention, bien sûr, dissimulée, cryptée, mais directe dans la politique et dans la politique, non seulement la politique internationale, je veux dire la lutte contre Charles Quint, mais en plus de ça, dans la politique française, à l'intérieur de la France. Puisque ce sont deux livres qui sont écrits au moment où la réforme commence à gagner beaucoup d'esprit et où la condamnation, enfin la séparation entre protestants et catholiques n'est pas absolument irréductible.
Alors réflexion sur le pouvoir, réflexion sur la religion, réflexion aussi sur l'éducation qui d'ailleurs dans la vie quotidienne de Gargantua n'occupait pas une place prioritaire.
Gargantua dispensait don de son temps comme ordinairement. Il s'éveillait entre 8 et 9 heures, puis il se gambeillait, panadait et paillardait au lit quelque temps pour mieux esbaudir ses esprits animaux et s'habillait selon la saison. Puis il fiantait, pissait, rendait sa gorge, rotait, pétait, baillait, crachait, toussait et se morvait, et déjeunait de belles tripes frites, de beaux jambons et force soupe de primeur. Après avoir bien à point déjeuné, il allait à l'église. Au partir de l'église, il étudiait une méchante demi-heure, les yeux assis sur ses livres, mais, comme on dit, son âme était à la cuisine. Après souper, prenait les évangiles de bois, c'est-à-dire les damiers, échiquier, jeux de loi, le tric-trac, les quilles et les bilboquets, et jouait avec ses compagnons. Puis, il s'en allait voir les garces d'alentour, et une fois rentré, dormait sans débrider jusqu'au lendemain matin.
Alors Jean-Yves Pouilloux, hein, les femmes, le jeu, la nourriture, le sommeil, c'était plus important que les études ou que l'église, à l'évidence. Hein.
Oui, mais ça c'est le premier Gargantua, c'est les premiers maîtres, c'est sous ses maîtres sophistes. Et puis après, il reçoit un bon maître qui lui fait avoir un régime et alimentaire plus strict, c'est pas tout à fait les tripes frites au petit déjeuner, et qui le plonge...
Et la boisson, faut pas oublier.
Et on ne boit que de façon réglée, oui, mais c'est pour plus tard ça. Mais pour l'éducation, si vous voulez, il y a un programme d'éducation démesuré, complètement gigantesque, à proprement parler, pour Gargantua, mais qui est beaucoup plus éclairé que la version que vous en avez donnée, qui est la mauvaise éducation, si je peux dire. Ce qui me frappe beaucoup, et c'est un programme d'éducation où on fait de tout, y compris les travaux manuels et des exercices physiques, mais ce qui me paraît le plus important, c'est qu'en fait, c'est une éducation de prince. C'est-à-dire que c'est pas du tout un érudit qui lit lui-même, on lui lit les livres.
Ah oui, d'accord. Alors bon, succès considérable avec Gargantua, qui pousse Rabelais à écrire trois autres livres, moins connus d'ailleurs que Gargantua et Pantagruel. C'est vrai que c'est le sens, c'est l'amour de la vie, au fond, d'une certaine manière, qui prime chez Rabelais.
Tout à fait.
Et des femmes et de...
Tout à fait. Ce qui est très frappant, il y a un grand critique russe qui s'appelle Mikhail Bakhtin, qui a raconté comment c'est se rattacher à ce qu'il appelle la tradition, disons, carnavalesque, essentiellement. Et c'est-à-dire l'explosion de l'énergie vitale, du rire, de la danse, de la mangeaille, de la boisson, etc. Et il y a ça tout le long du roman. Quelquefois un peu trop, d'après les esprits un peu chagrins, comme La Bruyère ou Voltaire, mais il y a ça tout le long.
À boire ! Puis nous nous reposerons pour être frais demain. Oh, à propos,
Pourquoi est-ce que les cuisses des damoiselles sont toujours fraîches?
Ce problème n'est ni en Aristote, ni en Platon.
Non.
Ni en Plutarque.
C'est pour trois causes par lesquelles un pareil lieu est naturellement rafraîchi. Primo, parce que l'eau en découvre tout du long. Secondo, parce que c'est un lieu ombrageux, obscur et ténébreux, auquel jamais le soleil ne luit. Et tertio, parce qu'il est continuellement éventé par la braguette. À boire !
Hein, c'est paillard, hein, Rabelais. Hein.
Ah oui,
il y a
oui.
des tas de citations, vous en avez cité quelques-unes avant, notamment sur la vieillesse, il y avait une formule étonnante.
Mais oui, Panurge veut se marier, mais il est un peu grisonnant, et il demande son avis à frère Jean des Entomeurs. Et frère Jean considère les cheveux de Panurge et lui dit « Quand la neige est sur le sommet des montagnes, il n'y a pas grande chaleur dans la vallée des Braguettes.
» Alors, bon, Panurge, c'est le principal personnage des livres qui suivront, le tiers livre, le quart livre, qui est le voyage de Panurge en direction de la dive Bouteille, à l'épisode des moutons de Panurge. Il y a aussi la guerre, c'est une occasion, au moment où Jacques Cartier découvre le Canada, c'est une occasion pour Rabelais d'évoquer le monde qu'il connaît, lui en Europe. Par exemple, il évoque, nous sommes à la veille des guerres de religion, la guerre entre les papimanes, les catholiques, et les papes figues, les protestants, ça c'est courageux. En fait, il s'est fait attaquer par les deux, protestants et catholiques.
Tout à fait. Tout
Calvin
à fait.
Détestait Rabelais.
Calvin, oh ben Calvin était pas un esprit très rigolo, hein. C'était plutôt, il était plutôt chagrin. Ben, il est très frappant que Étienne Dolay a été brûlé, place Maubert à Paris.
L'imprimeur, oui.
L'imprimeur, qui était un érudit, et que Michel Servet a été brûlé à Genève. C'est-à-dire que des deux côtés, on n'était pas extrêmement tendre avec la culture en général, avec la liberté d'esprit.
Mais comment c'est-il qu'il ait échappé justement à ces persécutions déjà?
Il a trouvé un bon protecteur, le cardinal du Bellay, dont qu'il a accompagné en Italie. Et puis quand ça a commencé à sentir un peu fort le Roussy, il a quitté Paris pour Metz, qui était une ville impériale, donc en dehors du pouvoir temporel du roi, et où il a passé un an et demi à l'abri des poursuites.
Enfin, néanmoins condamné pour obscénité, mais peut-être aussi à cause de la manière dont cet ancien moine imaginait la vie dans sa célèbre abbaye de Thélème.
Fut établi que là, honorablement, on pourrait être marié, riche, vêtu en liberté, et sortirait qui voudrait, quand bon lui semblerait. Ainsi fut fait. Et l'abbaye de Thélème construite, toute la vie des Thélémites y était employée non par loi, statut ou règle, mais selon leur vouloir et franc arbitre. Se lever du lit quand bon leur semblait, beuvait, mangeait, travaillait et dormait quand le désir leur en venait, en leur règle n'était que cette clause: fais ce que voudra.
Alors fais ce que voudra Jean-Yves Pouilloux. S'il y avait au fond une chose à retenir de Rabelais, est-ce que c'est pas ça la leçon au fond? Fais ce que voudra.
Oui, je trouve que Noiret lit ça d'une façon magnifique, c'est merveilleux. Oui, fais ce que voudra, mais il faut bien entendre, Thélème, c'est un mot qui vient du grec, téléma, et c'est le mot qui veut dire, qui désigne à la fois le désir et la volonté. Et il semble bien qu'il y ait toujours eu un conflit. Les gens un peu moralistes, austères, étaient pour la volonté et contre le désir, et les gens qui étaient un peu plus pour l'existence étaient pour le désir et pas tellement pour la volonté. Or, quand il invente Thélème, Rabelais trouve le moyen de réunir les deux versants dans le même mot. Deuxièmement, il dit dans ce passage qu'il n'y a aucune règle parce que des gens bien nés, libères, vivant en compagnie honnête, ont par nature un aiguillon qui les pousse à bien faire et à ne pas commettre d'actions mauvaises.
C'est un optimiste, au fond, Rabelais.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de péché originel,
ouais.
Ce qui n'est pas très catholique. Et on comprend très bien que ce n'est pas seulement l'obscénité, mais une position philosophique pour l'homme, humaniste au sens propre, qui ne plaisait pas beaucoup à l'orthodoxie religieuse.
Et en cela, donc, un homme de la Renaissance, c'est vrai, donc optimiste, c'est quelqu'un qui ne se fait aucune illusion sur la nature humaine, mais qui, en même temps, suggère aux hommes, au fond, de l'assumer, cette nature.
Absolument, absolument. Assumer la part d'animalité qu'il y a dans l'homme, assumer, y compris les choses, enfin, les petitesses. Mais bon, les hommes ne sont pas seulement grands, ne sont pas seulement, sont des créatures de Dieu, imparfaites. Et donc,
C'est un précurseur, à vous entendre, Jean-Yves Pouilloux. Et en même temps, est-ce qu'il a une postérité? Moi, je vois pas d'équivalent, au fond, d'écrivains du même ordre que Rabelais dans la littérature française après lui. Ça fait 5 siècles de ça.
Non, moi non plus.
Qu'est-ce qui reste alors? Pourquoi est-ce qu'on le lit encore? Pourquoi est-ce qu'on a du plaisir, même si la langue n'est pas facile, puisque c'est une langue ancienne?
Parce que c'est une mine extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez mesuré le nombre d'expressions que nous employons tous les jours. Et souvent, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est Drabelais, enfin, etc.
Mais on l'oublie même.
Bien sûr.
Ils sont devenus plus
populaires. Oui. Les moutons de Panurge, je vous disais tout à l'heure, c'est Drabelais. Enfin, il y a un nombre extraordinaire. Il a nourri une tradition extrêmement puissante pendant très longtemps. Quelqu'un comme Balzac a essayé d'écrire des contes drôlatiques à la manière de Rabelais.
Merci en tout cas Jean-Yves Pouilly de nous avoir rappelé donc la personnalité de Rabelais, son œuvre aussi. Je signale que vous l'avez fait aussi dans un livre que j'ai mentionné à maintes reprises et qui nous a beaucoup servi pour cette émission, Rabelais, rire et le propre de l'homme, qui est disponible chez Gallimard Découverte. À lire également un Rabelais de Gilles Henry, publié chez Perrin, et à signaler que toutes les œuvres de Rabelais sont disponibles en poche aux éditions du Seuil, collection Point. Et puis à signaler surtout que vous avez pu entendre des extraits du CD Gargantua qui vient de sortir chez Frémaux et Associés avec les voix de Philippe Noiret, de Jacques Villeray et de Bernard Allaire. Vous pouvez également retrouver la bibliographie de l'émission en contactant, vous le savez, le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute, ou nous contacter par email à l'adresse suivante 2000ans.histoire@radiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pierre Rayon et Étienne Michka, archivina Elsa Boublil, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.